Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 30 juin 2016. Au sommaire ce soir.
Au Mali, deux attaques dans le nord du pays, près de Tombouctou et à Gao, ont fait au moins 5 morts, dont 4 soldats maliens.
Dans l'extrême nord du Cameroun, un nouvel attentat suicide attribué à Boko Haram fait au moins 11 morts, dont 10 membres d'un comité de vigilance.
Au Tchad, les violeurs de la lycéenne Zoura condamnés à 10 ans de travaux forcés.
Nous avons même menacé d'organiser des manifestations si ces gens n'étaient pas jugés.
En magazine, nous irons dans le sud du Tchad, où arrivent de nouveaux réfugiés centrafricains fuyant les violences à Ngaoundaï.
Tu ne peux pas voir la mort venir et puis tu restes là.
On est en train de travailler ou ça et puis seulement les rebelles qui arrivent, nous ne connaissons pas. J'ai des enfants, moi avec ma femme, tout, on est arrivé ici.
Le journal de l'Euro, Portugal-Pologne ce soir pour une place dans le dernier carré.
D'abord, le journal.
Au Cameroun, le gouvernement a décidé de déployer d'autres contingents militaires le long de la frontière avec le Nigeria suite à l'attaque suicide de mercredi soir qui a fait au moins 13 morts. Parmi les victimes se trouvent plusieurs membres d'un comité de vigilance combattant Boko Haram. On écoute les explications du gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, Midji Yawa Bakari.
Ce qu'il convient de souligner ici, c'est que pendant ces périodes de prière intense des nuits, nous avons demandé à toute la population d'être plus vigilante et de sécuriser les lieux de prière. Il se trouve que les jeunes, il y a un qui dispose d'un groupe électrogène et qui projette des films moyennant quelque chose. Malgré l'interdiction formelle qui a été prise, ils se retrouvent dans ces regroupements. Nous voulons insister ici que tous les regroupements sont jusqu'à nouvel avis interdit. Nous sommes à la dernière ligne droite de la période du Ramadan. Et à cette période, généralement, il y a des prières intenses des nuits à la recherche de la nuit de destin. Donc, il y a des regroupements. Nous avons instruit le préfet de tout mettre en œuvre, les concerts avec les forces de défense et de sécurité, les comités de vigilance pour sécuriser les lieux de prière.
Voilà, c'était le gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, Midji Yawa Bakari.
Au Cameroun toujours, le président Paul Biya a refusé de promulguer une réforme très controversée du code pénal. Le président a demandé qu'on amende l'article 127 qui accorde l'immunité aux membres du gouvernement. C'est ce que rapporte le député Martin Oyono, cité par le site cameruninfo.net. Il est rare que le président Paul Biya renvoie un projet de loi.
Au Tchad, 6 des 7 violeurs de la lycéenne ont été condamnés ce jeudi à N'Djamena à 10 ans de travaux forcés chacun. La réaction de Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense et des droits de l'homme.
Nous n'y avons pas tellement cru et nous avons même menacé d'organiser des manifestations si ces gens n'étaient pas jugés. Voilà, c'est fait. C'est quand même une première. Nous nous en félicitons. Deux, c'était évadé de prison. On a rattrapé un. Il reste un qui est toujours en cavale. Celui qui est en cavale doit être ramené, absolument ramené en prison.
Les violeurs de Zuhura ont été condamnés chacun à 10 ans de travaux forcés. Que pensez-vous de cette peine?
La peine est raide. Et il faut faire un exemple. Vous savez que si vraiment les gens avaient été un peu plus cléments, nous craignons qu'il y ait des récidives.
Le défenseur des droits humains, Mahamat Nour Ibedou, joint N'Djamena.
Lutte contre le djihadisme au Burkina Faso. 10 personnes ont été arrêtées en lien avec les attaques islamistes de Ouagadougou, de Oursi et de la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'annonce le ministre burkinabé de l'Intérieur. Ces interpellations ont commencé en mai. Les 10 personnes faisaient partie d'un groupe de 49 suspects de nationalités diverses interpellés dans le cadre de ces enquêtes.
Au Mali, l'armée nationale a été attaquée hier dans la zone de Tintilout, près de Tombouctou, par des individus armés non identifiés. Bilan provisoire, 4 morts, 2 blessés graves, 3 blessés légers. La situation sécuritaire devient inquiétante dans la région de Tombouctou, où durant le seul mois de juin, il n'y a plus d'une dizaine d'attaques contre les militaires maliens et les combattants des groupes basés à Ber. Kassim Traoré.
Les assaillants ont emporté deux véhicules de l'armée malienne bien équipés. Le convoi de l'armée malienne attaqué était en route pour Goundam quand il a été la cible des hommes armés non identifiés. Les assaillants n'ont pas pu être poursuivis, faute de vecteurs aériens. L'axe Tombouctou-Goundam devient la plus dangereuse dans la région de Tombouctou. Pendant le seul mois de juin, l'armée malienne a été victime d'au moins 4 attaques sur cette route. Sur les 10 attaques qu'enregistre la région de Tombouctou pendant le seul mois de juin, a rappelé qu'il y a eu un changement au niveau des FAMA. Le nouveau général de division et ancien chef d'état-major général adjoint vient d'être nommé chef d'état-major général des armées du Mali. Il s'agit du général de division Didier Dako. Il remplace à ce poste le général Mamane Touré, dont le nom est cité dans l'affaire des affrontements de Kidal en 2014. Affrontement né de la visite forcée de l'ancien premier ministre Moussa Mara à Kidal. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Autre attaque dans le nord malien, cette fois dans le centre-ville de Gao. Elle a fait au moins un mort et deux blessés. Selon notre correspondant sur place, deux individus armés qui circulaient sur une moto ont tiré sur un véhicule du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination créé pour la mise en œuvre des patrouilles mixtes dans le nord du Mali. Boubacar Touré.
Dans la nuit du mercredi à jeudi, dans le quartier Aljana Banja, deux individus armés qui circulaient en moto ont ouvert le feu sur un véhicule 4x4 du MOC. Comprenez par là le mécanisme opérationnel de coordination qui a été créé pour la mise en œuvre des patrouilles mixtes. CEMA, plateforme armée malienne, la mise en œuvre du DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Le bilan fait état de un mort et deux blessés parmi les occupants qui appartiennent tous au MOC. L'identité des assassins n'est pas connu, mais tout laisse croire que c'est un règlement de compte car le choix porté sur les membres qui composent le MOC est mal perçu par certains membres des groupes armés. Il faut reconnaître que ces derniers temps, les attaques d'hommes en armes sur des motos sont très courantes. Malheureusement, les auteurs de ces forfaits courent encore et ne sont jamais inquiétés. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, l'opposition rejette le référendum sur une nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. 23 partis, dont le Front populaire ivoirien, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, ont adapté une déclaration commune exprimant leur refus.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Double attentat suicide revendiqué par les talibans contre un convoi de recrues de la police afghane à Kaboul, au bilan au moins 27 morts, John Lyndon.
L'attaque s'est produite alors que les 5 bus en provenance de l'académie de police de Wardak, à l'ouest de la capitale, atteignaient Kaboul. Les bus ramenaient les jeunes policiers en cours de formation à Kaboul pour célébrer la fin du Ramadan, attendu en début de semaine prochaine. Les talibans ont rapidement revendiqué l'opération. Le chef de la police de Kaboul a précisé que les attaques ont été perpétrées par les kamikazes. D'après des témoins, les deux explosions se sont succédées de manière presque simultanée. Le président Ashraf Ghani a fermement condamné cet acte. L'ambassade américaine à Kaboul dénonce une action effroyable. Le bilan officiel ne fait pas état des victimes civiles, mais le général américain Charlie Cleveland évoque de nombreux civils blessés.
Plus de 150 djihadistes du groupe État islamique ont été tués dans des frappes aériennes qui ont détruit quelque 260 véhicules fuyant la ville de Fallujah depuis mardi. C'est ce qu'indiquait aujourd'hui l'armée irakienne. Le Pentagone a évalué à 175 le nombre de ces véhicules détruits par les seules frappes de la coalition internationale dirigée par les États-Unis.
La police turque a arrêté 13 suspects, dont 3 étrangers, au surlendemain des attentats suicides à l'aéroport d'Istanbul. Le gouvernement a également publié un nouveau bilan faisant maintenant état de 44 morts et plus de 260 blessés.
Au Royaume-Uni, le Brexit fait encore des vagues car son chef de file Boris Johnson renonce à la candidature pour devenir Premier ministre. Éric Manirakiza.
C'est un véritable coup de théâtre. Boris Johnson a annoncé qu'il n'était plus candidat pour succéder à David Cameron, le Premier ministre démissionnaire. L'ancien maire de Londres a retourné sa veste après avoir appris que son allié, le ministre de la Justice Michael Gove, l'avait devancé. 4 autres candidatures sont annoncées, dont Theresa May, la ministre de l'Intérieur qui fait figure de candidate de consensus. Fidèle à David Cameron, elle a même défendu l'idée de limiter l'immigration. Il y a aussi Stephen Crabb, ministre du Travail, qui a annoncé en premier qu'il voulait devenir le prochain locataire du 10 Downing Street. Malgré son attachement à l'Union européenne, il a indiqué qu'aucun retour en arrière n'est possible, excluant de facto un second référendum.
Le Quartet sur le Proche-Orient a publié un rapport aujourd'hui appelant Israël à cesser d'urgence sa politique de colonisation en Cisjordanie et visant aussi les Palestiniens pour la violence, l'incitation à la violence et le terrorisme. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Bagassi Koura est en studio pour le journal de l'Euro. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors, parlons des quarts de finale.
Oui, on entame les quarts de finale, c'est ce soir, hein. Portugal-Pologne, c'est l'affiche donc du jour. Ce sera surtout un match entre stars, Lewandowski contre Cristiano Ronaldo. Chérubin, je ne sais pas si vous avez une préférence, mais Ronaldo... Oui.
La Pologne a battu Haïti en 1974, 7-0. Donc, je suis avec Cristiano Ronaldo.
Vous étiez le seul né dans ce studio-là. Et donc, Cristiano Ronaldo, qui joue donc son quatrième euro, sera...
C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonjour. Le quart de finale de Marseille entre la Pologne et le Portugal oppose deux pays de football qui ont chacun à une époque donnée rivalisé avec les plus grands pour la conquête des titres majeurs. La Pologne a brillé dans les années 70-80 au plus fort de la suprématie germano-néerlandaise et a fourni au football mondial une pléthore de joueurs de qualité. Le retour de cette équipe dans la cour des grands n'est donc pas un hasard. Invaincu depuis le début de la compétition, le groupe actuel se présente toujours avec le même schéma. La force de la Pologne est derrière. Là où un bloc avancé, hermétique, solidaire et au moral d'acier assure l'impunité. Un seul but imparable contre la Suisse a été encaissé en huitième de finale. L'équipe sait aussi se projeter très rapidement vers l'avant, alimentant une attaque où le joueur vedette Robert Lewandowski a choisi de jouer la distraction et créer des espaces pour libérer des partenaires anonyme mais réaliste et décisif. En face, le Portugal, ce roi sans couronne, qui de Zébio à Cristiano Ronaldo, a aussi inondé le football mondial d'artistes incomparables, avance sans convaincre, mais aussi sans rompre. Il est certain que devant le bloc polonais, les Portugais vont prendre le jeu à leur compte, au risque de s'exposer aux contres adverses. Ils ont donc intérêt à ouvrir le score contre une formation qui n'a jamais été menée. Cela obligerait les Polonais à laisser des espaces, un contexte plus favorable au jeu technique des Portugais. Pour tout dire, ici, le scénario initial de la rencontre sera déterminant. À demain.
Bien dit, Jules Valentin Gouet. Deuxième quart de finale de l'Euro 2016, vendredi.
Oui, il oppose le pays de Galles à la Belgique, un grand favori face à un outsider pour une place dans le dernier carré. Notre correspondant à Paris, Christian Mpanzou, nous donne les clés de cette rencontre.
De tous les favoris de cet Euro, la Belgique est certainement l'équipe au parcours le moins complexe pour atteindre la finale. Mais avant de fouler la pelouse du Stade de France le 10 juillet prochain, les Belges devront battre le Pays de Galles. Boostés par leur large victoire en huitième de finale, les Diables Rouges sont en pleine confiance. Le capitaine Eden Hazard semble avoir pris la mesure de son rôle de leader technique sur le terrain, mais aussi de meneur d'homme en l'absence de l'habituel capitaine Vincent Kompany. À ses côtés, Romelu Lukaku a fait taire la plupart des critiques en inscrivant deux buts. Mais face à eux, la coriace équipe galloise, emmenée de main de maître par Gareth Bale, le numéro 11 gallois, est co-meilleur buteur de la compétition avec trois réalisations. Le joueur du Real Madrid n'est pas le seul connu sur la scène européenne. Le milieu d'Arsenal Aaron Ramsey est un allié précieux depuis le début de l'Euro. Pour leur première participation à un championnat d'Europe, les Gallois ont déjà accompli l'exploit d'atteindre les quarts de finale et rêvent d'accrocher le dernier carré. Le match se jouera à Lille, sous les yeux d'une très large communauté belge proche de la frontière. Depuis Paris, Christian Panzou pour VOA Afrique.
Voilà, ajoutons que samedi, le choc Italie-Allemagne et au Stade de France dimanche, les Bleus affrontent l'Islande.
Zlatan Ibrahimovic débarque à Manchester United.
Oui, l'attaquant suédois, très courtisé malgré ses 34 ans et son Euro 2016 raté, va découvrir un nouveau championnat et retrouver l'entraîneur portugais, The Special One, José Mourinho.
Voilà pour le journal de l'Euro. Rapidement, un mot sur Muguruza en tennis.
Oui, bien, il a été éliminé ce soir, hein, l'Espagnol Garbiñe Muguruza, numéro 2 mondial.
Oui, et le lauréat de Roland-Garros qui a chuté ce jeudi. Merci.
À Wimbledon.
Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
44 millions de dollars, c'est le montant de la somme que la Banque africaine de développement vient d'approuver en faveur du Tchad. Ce soutien devrait permettre le financement de la seconde phase du programme d'appui aux réformes des finances publiques. L'objectif de ce programme est de consolider et de renforcer la qualité de la dépense publique et créer les conditions favorables à la diversification des sources de croissance du pays. Depuis hier mercredi, la Côte d'Ivoire a un nouveau directeur général du Trésor en la personne de Jacques Assahoré Konan, qui a été nommé par le gouvernement suite à un appel à candidature. À 55 ans, Jacques Assahoré Konan arrive donc là au sommet d'une administration qu'il connaît bien. Il cumule en effet 26 ans de service à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité nationale. L'incertitude générée par le vote britannique en faveur d'une sortie de l'Union européenne constitue le principal risque qui pèse sur l'économie mondiale, a estimé ce jeudi le Fonds monétaire international. Nous considérons l'incertitude actuelle comme étant sans doute le principal risque pour l'économie mondiale, a déclaré le porte-parole du FMI, Jerry Rice, appelant les dirigeants européens à prendre des actions décisives.
Ravi d'être en votre compagnie en ce dernier jour du mois de juin. Morgan Guériac et Gaby Dorsil, place au dossier du jour.
Et on parle de la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Le militant anti-esclavagiste Biram Da Abeid, qui vient de sortir de prison dans son pays, est en visite aux États-Unis. Et aujourd'hui, il a été honoré par le Département d'État. C'est le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, en personne, qui lui a remis le prix. Sa réaction au micro de Nathalie Barge.
Grâce à notre détermination, grâce à notre résistance, grâce à la mobilisation de nos militants, de nos militantes, de la société et des populations mauritaniennes pour la cause que nous défendons, qui est la cause de tous, et qui est la cause de la justice. Nous avons aussi bénéficié de cet élargissement grâce aussi à la position de la communauté internationale, que ce soit les ONG, les organismes internationaux ou certains États.
Justement, vous allez parler de votre prix. N'est-ce pas? Votre prix, quel est-il?
Mon énième prix.
Oui, votre énième prix,
exact. C'est un prix qui était encore une fois de plus la véracité, la justesse et la pertinence de notre combat contre le racisme, l'esclavage, la corruption, la violation des droits de l'homme en République islamique de Mauritanie. C'est un désaveu pour le pouvoir qui nous opprime. C'est un désaveu pour le pouvoir qui interdit notre organisation IRA Mauritanie. C'est un désaveu pour le pouvoir qui continue à résister à la fatalité démocratique, à la fatalité démographique, car en Mauritanie, il y a un apartheid non écrit, mais arabo-berbère, cette fois-ci, est implanté en Afrique de l'Ouest, qui prive 80% de la population mauritanienne à cause de leur ethnie, de leurs origines, de la couleur de leur peau, de leur langue, de leurs droits. C'est un pouvoir dictatorial militaire sur lequel se relaient certains officiers mauritaniens et qui prennent en otage, en bouclier, la communauté arabo-berbère, en menant une propagande qui désigne Biram Da Abeid comme un pyromane qui vise à nuire à la communauté arabo-berbère.
Voilà, c'était donc le militant anti-esclavagiste Biram Da Abeid qui était en visite ici à Washington dans nos locaux ce matin.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Quelles seront les conséquences possibles en Afrique du Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Les accords commerciaux en seront-ils affectés? Y aura-t-il des changements à l'aide au développement? Le Brexit peut-il tout de même offrir des opportunités à l'Afrique? Y a-t-il également une dimension politique qui pourrait affecter le continent? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h15.
Cap sur le Tchad. Plusieurs réfugiés centrafricains se sont récemment enregistrés auprès du HCR et ses partenaires dans des villages frontaliers situés au sud du pays. Ils ont fui l'insécurité qui prévaut dans la sous-préfecture de Ngaoundaye et ses environs, côté RCA. Une situation urgente, estime le Haut Commissariat pour les réfugiés au Tchad. Une correspondance d'André Kodmajingar.
Ici, nous sommes dans un village mini situé dans la région des Monts de Lam, à environ 1,5 km de la frontière Tchad-RCA. Et ce sont les salles de classe des bâtiments d'un établissement scolaire qui servent de dortoir et constituent en même temps un site de pré-enregistrement des nouveaux réfugiés centrafricains. Pour une population estimée à 5000 personnes pour 1550 ménages, l'on note plus de 300 enfants dont l'âge varie entre 0 à 17 ans, non accompagnés. Ce chiffre pourrait augmenter dans les jours à venir compte tenu de la situation sécuritaire précaire en République centrafricaine. Selon l'OASR, ces réfugiés seront délocalisés sur un site déjà identifié par les autorités locales conformément à la Convention de l'Union africaine. Quelques réfugiés interrogés expliquent leur mésaventure.
Les Seleka, ils ont écrit déposer à la gendarmerie nationale de Ngaoundaye. Ils vont venir occuper la partie de Ngaoundaye jusqu'à Ban. Donc tout le monde a eu peur parce que tu ne peux pas voir la mort venir et puis tu restes là.
On est entré de travailler ou ça, et puis seulement les rebelles qui arrivent, nous ne connaissons pas. J'ai des enfants, moi avec ma femme, tout, on est arrivé ici.
Moi, je suis venue avec l'enfant de mon grand frère. Lui, il est parti au Tchad. C'est ça que j'ai ramené les enfants ici. Mon grand frère, il est parti à Cameroun.
L'administrateur national de protection du SR du Mobé, comme Constant, explique le mécanisme d'enregistrement de ces nouveaux réfugiés.
Nous avons les listes remises par les autorités. Donc on les oriente par famille devant les différents postes pour les interviews. Et maintenant, à l'issue des interviews, on les enregistre dans les tablettes. Si on constate qu'il y a des enfants à risque, nous les orientons maintenant à la section protection de l'enfance et donc à la protection de l'enfance, on procède aux évaluations.
Pour le chef de la sous-délégation du SR de Gorée, Billy Michel, cette urgence est tout à fait inattendue car elle arrive au moment où son organisation est en train de préparer le rapatriement volontaire des anciens réfugiés. Toutefois, il parle des défis à relever dans l'immédiat pour ce nouveau groupe.
Nous sommes en saison pluvieuse. On souhaiterait que les gens restent longtemps dans des abris, dans les écoles, ainsi de suite. C'est pas favorable pour l'hygiène. Tout de suite, nos équipes vont se mettre au travail pour construire les abris d'urgence, les latrines d'urgence, mettre des points d'eau qu'il faut, renforcer le système scolaire qu'il y a pour que les réfugiés vivent comme dans les villages.
André Kodmajingar dans la zone méridionale du pays pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Suite de la bataille judiciaire opposant depuis près de 30 ans les actionnaires de la compagnie de travaux publics Commissimpex à la République du Congo et portant sur plus d'un milliard de dollars. Le cabinet d'avocats White & Case, représentant Commissimpex, a convoqué la première dame du Congo de passage à Washington à comparaître lundi pour une déposition sur les avoirs de l'État congolais. Toutefois, Madame Antoinette Sassou Nguesso est repartie sans répondre à cette convocation. Pour en savoir plus, Timothée Dodongmaï a contacté Elisabeth Auger-Gross du bureau parisien du cabinet White & Case.
Commissimpex, société congolaise, a fait des travaux publics pour l'État pendant les années 80 et en très grande majorité, l'État n'a jamais payé ses travaux.
Alors, on parle de plus d'un milliard de dollars de dettes du gouvernement congolais. Commissimpex a engagé une action judiciaire pour récupérer ces fonds. Qu'est-ce que cela a donné jusqu'ici?
Il y a eu un premier arbitrage qui a mené à une sentence en 2000. Aujourd'hui, cette sentence vaut entre 100 et 200 millions d'euros. Et une deuxième sentence en 2013 pour entre 6 et 700 millions d'euros. Nous avons réussi à récupérer quelques millions d'euros en faisant des saisies par-ci par-là, mais pour l'instant, c'est à peu près tout.
Comment le gouvernement de Brazzaville justifie-t-il son refus de payer?
La défense du gouvernement de Brazzaville a toujours été que l'argent n'était pas dû, mais il y a aussi, le fait que le pays est pauvre, mais à la base, le pays dit que l'argent n'est pas dû.
De quels moyens disposez-vous aujourd'hui pour contraindre ce gouvernement à payer vos clients?
Nous allons continuer à essayer de saisir les biens de l'État, là où ces biens se trouvent. Il y a aussi les convocations pour essayer d'obtenir des informations sur les biens, les actifs du Congo aux États-Unis. Puisqu'aujourd'hui, nous avons une décision de justice américaine qui dit que nous pouvons faire exécuter ces sentences aux États-Unis.
Est-ce que vous avez espoir de récupérer ce qui est dû à vos clients ?
Bien sûr. Ça fait 30 ans que notre cliente se bat. Elle n'est pas prête à lâcher. Et nous avons donc un grand espoir que, de pouvoir récupérer l'argent dû.
Voilà, c'était Elisabeth Ogergross du bureau parisien du cabinet White & Case.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La nouvelle attaque terroriste en Turquie va-t-elle sonner le glas de l'industrie touristique, naguère florissante ? Claire Morin-Gibourg a joint le voyagiste Jean-Michel Foucault, directeur général de Turquie Passion, spécialiste de la destination depuis plus de 25 ans.
La crise a déjà commencé à la suite des précédents attentats. Celui-là va contribuer à, non pas à réduire le volume de clientèle qui va arriver, mais à certainement allonger le temps avant que les affaires reprennent, avant que les gens reviennent. Actuellement, on est à zéro. On a une perte d'activité complète.
Vous avez, voilà, au jour d'aujourd'hui, plus aucun touriste qui est arrivé, en fait, en Turquie ?
Alors, chez nous, voilà, on n'a plus de demandes. Nous, on travaille pour des groupes. On fait du tourisme d'affaires, on fait venir des entreprises. Et depuis déjà plusieurs mois, il n'y a plus de demandes. Car la destination inquiète, fait peur, les demandes ne vont pas repartir. C'est-à-dire que quand il y a une crise, la demande baisse, elle peut baisser à 50%, à 20%, à 30%. C'est arrivé dans le passé, en 30 ans. On a eu des histoires comme ça. Mais cette année, depuis le mois de janvier, et même un petit peu avant, la demande est nulle. C'est complètement nul.
Alors, comment vous adaptez-vous ? Comment vous allez pouvoir faire survivre votre société ?
D'abord, en économisant surtout, en licenciant le personnel. Actuellement, on est arrivé à 2 permanents à l'agence, en espérant pouvoir tenir le plus longtemps possible avant qu'il y ait une reprise. Et puis, on s'attache à faire des propositions. On est en train de mettre en place des produits à proposer aux Turcs pour aller à l'étranger, et tout particulièrement en France.
L'État turc a débloqué 79 millions d'euros de subventions. Est-ce que pour vous, c'est suffisant et est-ce que cela vous a aidé ?
Ça, ce sont des aides qui s'adressent, on va dire, aux très, très gros tour opérateurs. Et puis également, le financement des salons de tourisme. Et vous savez, en période de crise, sur les stands turcs des salons, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. On vient nous voir en nous disant, on est vraiment désolé, c'est grave, c'est dramatique. Voilà, mais c'est pas l'endroit où on peut vraiment retrouver de la clientèle.
Jean-Michel Foucault, directeur général de Turquie Passion, joint à Istanbul.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagno à la mise en onde, à la console Nachouane Calé. Présentation Morgane Diriec et Chérubin Gavi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et visitez voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM,
92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.